Eugénie Pradez, Rejetée dans la nuit. Personne n'avait jamais pu lui dire à qui il devait ce don de la vie. Le seul en sa possession, au moment où, prenant conscience de lui-même et regardant les choses autour de lui, il avait compris que les conditions de l'existence n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Pourquoi cette différence? Cela était ainsi parce que cela était ainsi. Il avait accepté ce mystère avec celui de sa naissance sans chercher, à l'évidence des faits, de vaines explications. La nécessité, du reste, s'était tout de suite emparée de lui, façonnant son esprit à la soumission passive des êtres que la fatigue du corps tient perpétuellement asservi et dompté. À côté des pressantes exigences de la vie, et au-dessus d'elle, une conviction embellissait, cependant, cette existence de travailleur obstiné, arrachant le pain de chaque jour à un labeur incessant. Il sentait distinctement flotter dans l'air autour de lui une mystérieuse protection. N'était-ce pas à cette invisible puissance qu'il devait les instruments de travail au moyen desquels il gagnait sa subsistance, à la sueur de son front, comme cela était juste, sa hache et sa scie? Non qu'il éprouvât envers cette lointaine charité publique qui n'avait point de corps de chair et d'os, qu'il pût voir ou toucher, un sentiment de reconnaissance précis, non, mais il la vénérait de loin, comme un génie bienfaisant et puissant qui veillait sur la destinée des malheureux et, au besoin, leur donnait les armes nécessaires à la lutte. Si parfois quelque chose de la vague rumeur qui montait autour de lui, de tout en bas, avait frappé son oreille, elle n'éveillait en lui qu'un indéfinissable malaise, comme si son sort était un privilège injuste et l'objet de convoitises menaçantes. De l'ensemble terne et brumeux de cette vie obscure, honnête et satisfaite, tissée de jours si semblables que la mémoire les confondait, un souvenir se détachait net et très vivant. Jamais l'ouvrier ne regardait sa main gauche, main mutilée, où l'index absent laissait une large lacune. Sans se remémorer avec un sursaut fait d'épouvante et de joie, le moment où, d'un coup de hache bien lancé, il avait tranché le doigt à la naissance de la première phalange, sans qu'on eût besoin d'y revenir pour le débarrasser de ce lambeau devenu inutile. Ce jour-là, le monde, ce grand monde fermé qui formait à ses yeux un tout solide dont il était naturellement exclu, s'était entrouvert devant lui. Des paroles de compassion, adressées à lui personnellement, l'avait pénétré jusqu'à l'âme. Subite révélation de quelque chose d'exceptionnel et de merveilleux. Et depuis, lorsqu'on employait dans la maison où était survenu l'insignifiant malheur qu'il avait privé d'un doigt, il quittait souvent son travail pour aller s'asseoir à la cuisine, tendant au feu sa main estropiée, toujours prompte à se geler. Il regardait un moment la vieille Gertrude aller et venir dans son domaine, et par l'entrebâillement de la porte, parfois, il entrevoyait la fine silhouette de Sylvine, presque une demoiselle à présent. Entre lui et cette jeunesse élégante, un lien mystérieux existait. Timide secret, caressé dans le silence et la solitude, et il suivait des yeux l'apparition avec une attention passionnée. Il y avait de cela 10 ans. Un bond imprévu de l'enfant, passant à côté de lui dans un tourbillon d'étoffe claire, avait fait dévier la hache, la jetant lourdement sur la main. Il n'oublierait jamais cette dette-là. Sans Sylvine, le paradis où la vieille Gertrude l'appelait Joseph, par son nom, où il faisait chaud l'hiver, où il avait eu pour la première fois la sensation nette d'être regardé pour lui-même sous son accoutrement de travailleur infatigable, serait resté clos et muet. L'image de Sylvine avait peu à peu incarné dans la vie de l'ouvrier le type tangible de ce qu'il sentait de bon et de bienveillant flotter dans l'air autour de lui. Ce jour-là, cependant, tandis qu'il s'acheminait vers la maison de Gertrude, ce n'était pas à Sylvine qu'il pensait, non, ni à l'obligation mystérieuse qu'il avait contractée envers elle. Il s'en allait, poussé par un désir devenu impérieux, d'éprouver une seconde fois ce qu'il avait senti l'autre jour, lorsque la jeune fille, passant sa tête rieuse par l'entrebâillement de la porte, s'était écriée « Tiens, l'amoureux de Gertrude !» Ces mots lancés à la légère avaient fait, sur l'ouvrier qui touchait à la cinquantaine, une impression singulière. Il avait jeté sur Gertrude un regard surpris, et elle lui avait semblé moins vieille et moins usée qu'il n'avait cru. Il était parti, emportant cet étonnement, le cœur gonflé de quelque chose de nouveau et d'inattendu. Cependant, à mesure que les jours passaient, cette plénitude de joie avait fait place à un sourd malaise. Ce n'étaient pas les brutales impossibilités de la vie devant lesquelles il était habitué à plier sans objection qui l'obsédaient ainsi. Non, c'était autre chose. Une sournoise inquiétude semblait rôder autour de sa surprise pour lui disputer jusqu'à ce bonheur incomplet, boiteux et sans but. À la réflexion, l'attitude de Gertrude l'étonnait. L'exclamation de Sylvine n'avait fait naître aucune attention sur le visage de la vieille femme, et cette indifférence le blessait. Elle le blessait sans qu'il sût exactement pourquoi, comme si un besoin tout nouveau était né dans son cœur et réclamait tout de suite attention et satisfaction. Ce matin-là, il avait donc passé sans les regarder, à côté de sa hache et de sa scie, dressés dans leur coin, et il s'en était allé dehors les mains vides. Cependant, lorsque son coup de cloche timide eut retenti, presque effrayant dans le silence de la maison, et que le pas lourd de Gertrude résonna distinctement sur les dalles du corridor, une gêne le prit d'être là, car il ne retrouvait plus le prétexte qui devait expliquer sa venue. Il resta muet en face de Gertrude, qui le considérait très étonné, la figure échauffée et vieillotte encadrée de son bonnet blanc. Elle lui dit enfin, le voyant rester immobile et silencieux devant elle, « Tiens, c'est vous, Joseph ?»«
C'est moi, oui. »
Elle reprit, « C'est pour vous chauffer un moment, peut-être. Voilà l'hiver, hein ?» Subitement dégourdi, il entra derrière elle en disant,
« C'est justement ce que je pensais. »
Et il s'assit discrètement sur la chaise qu'elle lui indiqua près du feu. Tendant sa main incomplète à la chaleur de la flamme, il dit, voyant autour de lui un désordre inaccoutumé régner dans le domaine d'ordinaire si propre de Gertrude, « On nettoie ici ?» La vieille servante lui jeta un regard interrogateur et il répéta sa question.
« Oh, rien, je disais seulement comme ça, on nettoie. »«
Oui, et il y aura du monde ce soir. » Sans savoir pourquoi, il sentit un léger serrement de cœur, tandis que les mots de Sylvine résonnaient de nouveau à ses oreilles, mais comme venant de très loin, à travers du brouillard. « Tiens, l'amoureux de Gertrude !» Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis il la referma sans parler, et resta silencieux, écoutant le tic-tac de l'horloge, dont le son lui semblait tout à coup très éclatant, avec un je ne sais quoi de sec et de pressé qu'il n'avait jamais remarqué. Tout à coup, le faisant sursauter sur sa chaise, l'heure se mit à sonner bruyamment. 1, 2, 3, 10 coups remplirent la cuisine, d'une longue vibration fêlée et chevrotante. Gertrude jeta un regard rapide sur son visiteur. Depuis le temps qu'il se chauffait, il devait avoir chaud, et elle dit « Alors, l'ouvrage ne va pas ?» Au même instant, tout près, une voix fraîche éclata dans la maison, et presque aussitôt le visage rose de Sylvine plus frais qu'à l'ordinaire sous la voilette noire qui l'abritait, parut. Une bouffée de chaleur courut à travers les veines de Joseph, du haut en bas, chassant dehors quelque chose de lourd qui lui était tombé sur le cœur. La jeune fille jeta un regard distrait dans le royaume de Gertrude, et haussant légèrement ses fines épaules de fillette, elle murmura « Mais il est donc toujours là, cet homme !» Un moment, sa voix et ses petits pas courts résonnèrent dans le vide du grand corridor, puis une porte s'ouvrit et se referma, et l'on n'entendit plus rien que le battant de la grande horloge, frappant l'air de son même va-et-vient fatigant. Elle semblait s'impatienter de quelque chose, elle aussi, et le répétait à sa manière, à satiété. Tout à coup, elle grinça joyeusement comme si elle eût enfin atteint le but désiré, et elle jeta dans le silence 11 coups retentissants. Quand le dernier se fut éteint dans le vide, Gertrude se retourna vers son visiteur et elle lui dit, avec une vibration inaccoutumée dans la voix, « À présent, Joseph, s'il vous plaît, j'aurai besoin de toute ma place. » Il se leva, marcha vers la porte et sortit. Dehors, un pâle soleil d'hiver perçait avec effort la brume rousse du matin. Joseph cacha entre le gilet et l'habit sa main mutilée saisie par l'air glacial, et il marcha au hasard, les yeux fixés sur ce soleil éteint qui ouvrait un trou rouge et profond dans le brouillard. Tout à coup, il se sentit brusquement jeté de côté et quelqu'un lui cria « Hé, l'homme ! Hé, attention !» Il se retourna pour comprendre le pourquoi de cette attaque subite, tandis que la sourde meurtrissure qu'il avait engourdie prenait tout à fait vie au fond de son cœur et s'y accusait brutalement. Et il dit, d'une voix sourde, qui ne s'adressait à personne, « C'était méchant !» Et continuant sa route, il se perdit bientôt dans le va-et-vient des rues.